Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Europe Soir, vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. Ce soir, on va vous plonger dans les secrets de l'armée. Invité exceptionnel à 18h20, l'ancien chef d'état-major des armées et ancien chef de l'état-major particulier de Jacques Chirac. Il a aussi d'ailleurs servi sous François Mitterrand. Le général 5 étoiles, Henri Banteja, est notre invité ce soir. Il publie ses mémoires absolument passionnantes. 18h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voix. Un couvre-feu à 18h, est-ce que ce sera suffisant? On en parlera. Et puis 19h20, le grand débat du Club des idées. Ce soir, on va se plonger dans le nouveau monde qui vient en 2021. Boom du e-commerce, télétravail, transport, au-delà de la France. Nos modes de vie vont être profondément bouleversés et ce sera sans doute la Chine qui imposera ses règles. On en parlera donc avec nos invités en partenariat avec Courrier International. Voilà pour le programme, chargé ce soir. D'abord le journal avec vous Isabelle Millet, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est quasiment 18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Comment limiter la circulation du Covid dans les écoles? En seulement une dizaine de jours, le taux de positivité des moins de 10 ans est passé de 3 à 10%.
Une hausse qui pose question sur le protocole sanitaire mis en place, notamment à la cantine, un moment critique du point de vue du brassage.
Et c'est l'un des sujets qui était sur la table du Conseil de défense aujourd'hui avant les annonces de demain.
Au menu également, l'instauration probable d'un couvre-feu généralisé, donc pour toute la France à 18h.
Les commerçants font les comptes, pour eux ce serait catastrophique.
Le jambon rose, bonbon, c'est bientôt fini.
Un rapport parlementaire recommande l'interdiction totale des nitrites qui allongent la durée de conservation mais qui sont soupçonnés de favoriser l'apparition de certains cancers.
Une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêt vise le ministre des Outre-mer, il s'appelle Sébastien Lecornu.
Les faits remontent à l'époque où il présidait le département de l'Eure.
Un suprémaciste noir fait exploser son appartement dans le Val d'Oise, ce militant très radical de la cause noire manipulait des produits chimiques.
Et puis il mesure 37 mètres de haut, il a quelques siècles au compteur et il vient de remporter un trophée suffisant me semble-t-il pour attiser votre curiosité et vous inciter à rester avec nous. La bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 0,21% à 5662 points.
Et puis le temps, ça ne s'arrange pas du côté de la neige, ma chère Anissa, bonsoir.
Bonsoir Julien, oui, dans le nord-est et les Alpes, il va beaucoup neiger demain avec 9 départements placés en vigilance orange pour les prochaines heures. Attention aussi demain, beaucoup de pluie, je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
De nouvelles décisions, de nouvelles mesures restrictives seront donc annoncées demain à 7h06 sans doute. Objectif, remporter la course de vitesse contre le Covid en attendant la vaccination à grande échelle.
Un reconfinement semble pour l'instant écarté, mais l'ajout de nouveaux départements sous couvre-feu dès 18h est très probable. Et peut-être même la généralisation de ce couvre-feu à l'ensemble du pays.
Et parmi les données surveillées de très près par le gouvernement, il y a le taux de positivité des enfants. On sait le rôle des plus jeunes dans la contamination. Anne Le Gall, on a bien compris qu'il n'était pas question de fermer les classes, en tout cas pour l'instant, mais il y a sans doute des aménagements à prévoir.
Oui, effectivement, ce qui intrigue en ce moment, c'est la hausse du nombre de cas positifs chez les moins de 10 ans. Il a triplé dernièrement. A priori, pas de lien direct avec la rentrée des classes, puisque les contaminations correspondent à la période des vacances. Mais le variant britannique, qui est 50% plus contagieux, circule particulièrement bien chez les enfants. Face à ce variant, il y aura donc des mesures à prendre, estime le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, qui recommande cependant de laisser les écoles ouvertes. Mais il faut, selon lui, des mesures de surveillance beaucoup plus strictes, avec d'abord des tests réguliers. 1 million de tests antigéniques sont prêts à être utilisés dans les établissements scolaires, avec peut-être aussi une organisation différente pour limiter le risque de contamination entre élèves. Certains observateurs avancent des pistes très pragmatiques. Attribuer une salle de classe fixe, par exemple, pour que les élèves ne se croisent pas dans les couloirs. Proposer des cours par demi-groupe, comme dans 70% des lycées. Étaler les horaires de cantine ou prévoir un pique-nique en classe, comme cela se fait à l'étranger. En revanche, l'allongement des vacances de février suggéré par certains médecins ne semble pas à l'ordre du jour actuellement.
Les précisions d'Anne Le Gall du service Société d'Europe 1 et on verra donc ce qui sera annoncé demain.
La France, qui comparée aux autres pays, ne s'en sort pas si mal, si l'on peut dire.
Oui, l'Irlande par exemple, bon élève de la lutte contre la pandémie jusqu'à présent, présente depuis cette semaine le plus haut taux de transmission au monde devant la République tchèque et la Slovénie. Le Royaume-Uni enregistre 1564 morts en 24 heures, c'est un record absolu. En Italie, le gouvernement annonce son intention de prolonger l'état d'urgence jusqu'au 30 avril.
Et du côté des États-Unis, eux, ils sont confrontés à un nouveau record de décès.
Près de 3 morts chaque minute. Les patients sont entassés dans les couloirs des hôpitaux. La ville de New York craint de manquer de vaccins. Au Canada voisin, les habitants de l'Ontario ont reçu l'ordre de rester chez eux. Le système de santé de la province est sur le point de s'effondrer. La Chine prend également de nouvelles mesures de confinement. Et puis pour en revenir à ce qui nous attend sans doute chez nous en France, ce couvre-feu généralisé à 18h, eh bien cette hypothèse inquiète évidemment beaucoup les commerçants.
Oui, car si cette mesure est préférable bien sûr à un confinement, elle n'en aura pas moins des conséquences sur les finances de ces commerçants.
Qui commencent à faire les calculs et qui ne sont pas vraiment rassurés, Carole Ferry.
C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, vous avez déjà la grande distribution. Et pour cause, hein, le créneau 17h30-20h, c'est un tiers des courses alimentaires. Alors, on ne va pas non plus se laisser mourir de faim. Il y aura forcément un phénomène de report, notamment le week-end. Et d'ailleurs, la grande distribution appelle à l'ouverture généralisée des magasins le dimanche pour désengorger les rayons le samedi. Un phénomène de report plus compliqué dans d'autres secteurs, comme l'habillement, par exemple. Selon Damien Deforest, directeur général de la chaîne CEA, la perte de chiffre d'affaires dépend du scénario choisi.
Par rapport aux magasins qui sont déjà dans l'obligation de fermer à 18h, nous avons déjà une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 15 à 20%. Si cette décision venait à être étendue sur l'ensemble du territoire français, sur les grandes métropoles, on partirait plutôt sur de l'ordre de moins 25 à moins 30% de chiffre d'affaires. Un confinement le week-end nous entraînerait obligatoirement une perte de chiffre supplémentaire et on peut tabler sur l'ordre de moins 40%.
Même crainte du côté des fleuristes selon Franck Poncet, président du directoire de Monceau Fleurs.
On redoute ce couvre-feu. Souvent, les fleurs s'achètent aussi à la dernière minute, quand on sort du travail, par exemple, ou quand on sort du métro. Et donc, plus on réduit l'amplitude horaire de nos commerces et qu'on réduit le nombre d'occasions d'achat, ça a effectivement un impact. Et on ne le récupère pas. Hein.
Les buralistes aussi misent sur un manque à gagner, notamment sur les jeux de tirage ou de grattage. Manque à gagner, au final, pour les caisses de l'État.
Carole Ferry du service Éco d'Europe 1. Le géant français de la grande distribution Carrefour, dragué par un groupe d'alimentation canadien prénommé Couche-Tard. Les deux entreprises étudient un éventuel rapprochement. Emmanuel Duteil nous en dira plus dans le journal de 19h.
C'est un sacré nom, ça, Couche-Tard. Ouais. L'ancienne garde des Sceaux, Elisabeth Guigou, renonce à présider la commission indépendante sur l'inceste après avoir été citée parmi les proches d'Olivier Duhamel, accusé, vous le savez, de viol incestueux par sa belle-fille Camille Kouchner.
Le climat actuel ne me permet pas de conduire cette mission avec la sérénité nécessaire, dit-elle. Elle reconnaît avoir ignoré pendant toutes ces années les faits gravissimes dénoncés dans le livre.
Dans l'actualité également ce soir, deux ministres visés par des enquêtes.
Éric Dupond-Moretti fait désormais l'objet d'une information judiciaire pour des soupçons de prise illégale d'intérêt à la Cour de justice de la République. Ça, c'était prévu. Et puis, plus inattendu, en revanche, cette enquête préliminaire révélée par Libération qui vise le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu.
Oui, il est soupçonné, Marion Dubreuil, de s'être servi de son poste de président du conseil départemental de l'Eure pour favoriser les intérêts d'une société d'autoroute.
Oui, les faits remontent à juillet 2016. Sébastien Lecornu est à la tête du département de l'Eure, mais au même moment, l'élu Les Républicains siège au conseil d'administration de la Société des autoroutes Paris-Normandie. Il cumule les deux postes pendant près d'un an, comme en attestent ses déclarations de revenus à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Or, d'après Libération et Le Canard enchaîné, Sébastien Lecornu a approuvé plusieurs délibérations de la collectivité en faveur de la Société des autoroutes, dont la rétrocession d'un terrain de 4000 m² ou bien encore l'aménagement d'un échangeur ou d'un parking, d'où les soupçons de conflit d'intérêts. Le cabinet du ministre explique que si Sébastien Lecornu est resté un an au conseil d'administration de la société d'autoroute, c'est pour faire, je cite, « entendre la voix des territoires en toute transparence ». D'après Libération, c'est un courrier qui est à l'origine de l'enquête début 2019. Il est directement adressé à Éliane Houlette, qui dirige alors le parquet national financier. Une lettre signée par un ex-banquier des collectivités locales qui se défend de toute vendetta contre l'actuel ministre des Outre-mer.
Précision signée Marion Dubreuil. À Saint-Leu-la-Forêt, dans le Val-d'Oise, les pompiers sont intervenus ce matin sur l'explosion d'un appartement qui a déclenché un incendie et l'évacuation de tous les habitants de la résidence.
Une explosion involontaire déclenchée par son occupant, un homme connu pour être un suprémaciste noir qui aurait manipulé des substances chimiques, Cladys Lafitte.
Oui, effectivement, divers ingrédients chimiques qui laissent à penser que le locataire de l'appartement cherchait à confectionner un ou des engins explosifs. Et c'est l'hypothèse principale des enquêteurs parce que cet homme de 36 ans est bien connu des services de police et notamment du renseignement territorial. C'est un suprémaciste noir qui milite pour la constitution d'une nation noire. L'homme a été gravement blessé aux mains. Sa compagne se trouvait elle aussi dans l'appartement au moment de l'explosion ce matin. Elle est actuellement en garde à vue. Tous les deux vont devoir expliquer aux policiers pourquoi ils avaient ces produits chimiques chez eux, produits qui vont bien sûr être analysés, et surtout ce qu'ils comptaient en faire s'ils avaient un projet précis. Pour le moment, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire, et la trentaine d'habitants de la résidence a pu regagner leur logement dans la journée.
Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1.
L'actualité à l'étranger. 5 mois après son empoisonnement, l'opposant Alexei Navalny annonce son retour en Russie dimanche prochain.
Il assure avoir pris un billet sur une ligne régulière. Il risque une peine de prison, mais dénonce une manœuvre visant à l'empêcher de revenir dans son pays. Et puis aux États-Unis, les démocrates tentent aujourd'hui pour la deuxième fois de destituer Donald Trump, une semaine après les violences au Capitole. Mais la nouveauté, c'est que cette fois, ils sont soutenus par certains républicains.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal 18h10 avec Isabelle Millet. Il donne au jambon sa couleur rose artificielle. Les nitrites, soupçonnés de favoriser certains cancers, devraient être interdits en France d'ici à 2025.
Oui, c'est en tout cas ce que recommande un rapport parlementaire. Pierre Herbulot, ça fait un moment que ces additifs sont controversés.
Oui, l'Organisation mondiale de la santé le dit depuis 5 ans, les sels nitrités présents dans les charcuteries augmentent les risques de cancer, ce qui n'empêche pas les industriels d'en utiliser. La grande vertu de ce produit qui rosit le jambon, c'est la conservation, raconte Michel Crouzet, député de Lyon et rapporteur de la mission d'information.
Un jambon blanc qui se conserve beaucoup trop longtemps au frigo, qui ne pourrit plus. Moi, ça m'est arrivé, je l'ai laissé exprès pendant plusieurs semaines, il n'a pas bougé. C'est pas normal. Pour en arriver à une telle conservation, c'est qu'il y a déjà quand même beaucoup de choses qui sont mises dedans, et ce qui n'est pas normal. C'est vraiment un peu dangereux pour la santé.
1200 à 4000 morts par an en France, selon les études. Les grands groupes qui sentent le vent tourner ont commencé à faire aussi des gammes de jambon sans nitrite, en petite quantité mais plus cher. Ça prouve donc que c'est possible pour l'autre rapporteur, le député Richard Ramos, qui veut lui lutter contre ce qu'il appelle une alimentation à deux vitesses.
Exactement, mon grand combat, moi, de ma vie, c'est de faire en sorte que les plus pauvres, les plus humbles aient le droit de manger sainement. Et donc, surtout quand on a des produits de grande consommation. Quand je n'ai pas les moyens, si je n'ai pas les moyens de m'acheter du caviar, c'est normal. Mais quand je mange un camembert, quand je mange du jambon, eh bien, il est normal que je ne prenne pas de risque. Et je ne veux pas qu'il y ait deux alimentations en France, une pour les pauvres et une pour les riches. Autrefois, les riches mangeaient de la viande, les pauvres mangeaient des légumes. Aujourd'hui, regardez, les riches mangent des légumes, les pauvres mangent de la viande.
Mais alors, l'interdiction de ces sels nitrités n'est pas pour tout de suite. Les débats à l'Assemblée pour l'interdiction donc, de ces sels nitrités dans la charcuterie étaient prévus pour la fin du mois de janvier. Elle a été repoussée à une date indéterminée.
Merci beaucoup Pierre Herbulot, on suivra ça évidemment.
Sans transition, comme on dit, le foot. PSG-OM ce soir a lancé le trophée des champions 4 mois après leur dernière joute en septembre. Qui avait vu l'OM l'emporter pour la première fois depuis 10 ans au Parc des Princes.
Et qui s'était terminé, on s'en souvient, en bagarre générale, 5 cartons rouges, un coup de boule de Kurzawa, des accusations d'insultes racistes. Autant dire qu'il ne faudra pas grand-chose pour que la mèche se rallume. La rencontre se joue à Lens à partir de 21h.
Sous maintenant, Canal+ ne fera pas de cadeau à la Ligue pour les droits TV. La chaîne a en effet demandé un nouvel appel d'offres pour l'ensemble des matchs de la Ligue 1.
Et fait planer la menace d'une réduction encore plus drastique des revenus télévisuels des clubs. Si ça continue comme ça, désormais pour suivre les matchs, il ne restera que la radio.
La Coupe du Monde de ski perturbée, elle aussi, par le Covid.
Les épreuves messieurs de ski alpin prévues ce week-end dans la prestigieuse station de Kitzbühel en Autriche sont annulées après la découverte de 17 cas de Covid possiblement liés au variant anglais. Dans le Vendée Globe, 5 skippers dans un mouchoir de poche. Charlie Dalin a délogé de la première place Yannick Bestaven et Louis Burton filent en troisième position.
Ils sont peinards au côté Covid. Et puis, c'est un champion, lui aussi, à sa façon, un peuplier noir qui vient de remporter le concours de l'arbre de l'année.
Et si on vous en parle ce soir sur Europe 1, c'est parce que cet arbre a une belle histoire. Il a plus de 300 ans, il est situé dans la Marne et il a retenu l'attention du jury de ce concours, comme l'explique Éric de Kermel, le directeur de la rédaction de Terre Sauvage.
C'est un colosse. Hein. La circonférence, elle dépasse les 11 mètres. Sa hauteur, elle est de plus de 40 mètres. Ça doit être un des plus grands d'Europe. Il a de très belles branches sur les côtés avec un feuillage clair. C'est une écorce qui est très travaillée, qui est caractéristique de ces vieux grands arbres. Ce n'est pas une écorce lisse. Et si son histoire nous a touchés, c'est parce que c'est un arbre qui était un arbre sur un terrain privé. Et il a été question de mettre à bas cet arbre pour construire. Et grâce à l'opération L'Arbre de l'année, finalement, se rendant compte que cet arbre, ça faisait partie de son patrimoine, la municipalité a décidé de racheter le terrain donc, à celui qui possédait l'arbre. Et donc, c'est un arbre dont on est sûr qu'il appartiendra toujours à notre patrimoine.
Voilà, Eric de Carmel avec Diane Berger. Cet arbre, vous pouvez le retrouver, sa photo en tout cas sur europe1.fr.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour le rappel des titres et à 19h pour le journal. Un coup d'œil au temps avec Anissa qui nous annonce, et oui, de la neige encore en abondance demain, avec attention, 9 vigilances qui sont 9 départements placés en vigilance. Hein.
Oui, c'est un épisode neigeux remarquable qui est attendu pour demain. Les départements de la Lorraine, de l'Alsace, plus le territoire de Belfort, les Ardennes et la Haute-Savoie sont placés en vigilance orange, neige, vert, glace. Demain, c'est donc dans le nord-est, le long des frontières du Benelux, que la neige sera la plus présente, en plaine, jusqu'à 20 cm attendus par endroit. Soyez extrêmement prudents. On sait qu'hier, plus de 2000 personnes se sont retrouvées naufragées de la route. Dans les Alpes, les vallées savoyardes de la Tarentaise, de l'Arve et de la Maurienne seront encore très touchées demain et dans les jours à venir par ces fortes chutes de neige. Attention également au risque d'avalanche dans les Alpes. Et puis, partout ailleurs, c'est la pluie qui est au rendez-vous, de la Normandie à l'Île-de-France, de la Bourgogne à l'Auvergne, de la Gironde à l'Occitanie. Il pleut toute la journée. Au bord de la Méditerranée, le temps est sec et ensoleillé, mais attention, le vent souffle très fort. Les températures, elles sont plus fraîches sur les régions enneigées, avec moins 1 à 3 degrés dans le nord-est, 4 à 8 partout ailleurs. Et dans l'après-midi, nous aurons 2 à 7 degrés au meilleur de la journée dans les Alpes et le nord-est et 9 à 16 sur le reste du pays.
Prudence donc si vous habitez les départements concernés par ces vigilances. Il est tombé et il va tomber sans doute beaucoup, beaucoup de neige. Merci Anissa.
À tout à l'heure.
On vous retrouve à tout à l'heure, 18h30 et à 19h pour un nouveau point sur le temps.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et notre invité ce soir à 18h18, il va nous plonger dans les secrets de l'armée des anciens présidents de la République qu'il a bien connus. Bonsoir Général Henri Banteja.
Bonjour monsieur.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Alors vous êtes ancien chef d'état-major des armées, ancien chef d'état-major particulier du président Jacques Chirac, et vous publiez vos mémoires, c'est aux éditions Perrin, ça s'appelle « Les ors de la République, souvenirs de 7 ans à l'Élysée ». C'est absolument passionnant et on va en parler évidemment avec vous ce soir. Alors d'abord, pouvez-vous nous dire en quelques mots simples, quel est le rôle d'un chef de l'état-major particulier d'un président ?
Alors l'état-major particulier du président de la République est une petite boutique, 5 officiers, plus les 2 aides de camp du président qui y sont rattachés. Et c'est une boutique qui a pour mission d'assurer la liaison entre le chef des armées,
oui,
le président, et le chef d'état-major des armées, et bien sûr le ministre de la Défense. Donc si vous voulez, c'est une courroie de transmission très importante dans certains domaines comme la dissuasion nucléaire, par
bien
exemple.
Bien sûr, on va en parler.
Voilà, mais autrement, qui du coup, le chef d'état-major particulier de facto est le conseiller au jour le jour du président.
C'est intéressant parce que vous dites la boutique. C'est comme ça qu'on dit dans le jargon ? On parle de boutique ?
Oui, parce que c'est une petite chose. Je veux dire, c'est pas du tout un état-major. L'état-major des armées, oui, par exemple, c'est plus de 400 officiers.
Oui.
L'état-major particulier...
C'est la garde rapprochée autour du président.
Maison.
Alors, pendant cette période, vous avez vécu véritablement auprès des présidents que vous avez servis, du matin au soir d'ailleurs. Vous les conseillez aussi, c'est ce que vous expliquiez dans ces prises de décision militaire. On va évoquer tout cela. Et notamment sur les questions, vous en parliez, de dissuasion nucléaire. C'est la fameuse valise qui accompagne le président en permanence. Alors, j'ai une question que se posent évidemment tous les auditeurs d'Europe 1. Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise ?
Dans cette valise, il y a un code. Et pour que et si le président ordonnait la mise en œuvre des forces nucléaires, ce qui serait quand même dans des circonstances catastrophiques, parce
évidemment
que ça prouverait que la dissuasion n'a pas fonctionné. Si le président le décidait, son aide de camp lui présenterait le code et le président lui-même entrerait le code dans la valise. Le code serait transmis au chef d'état-major particulier, qui validerait la réalité, après avoir vérifié la réalité de l'ordre donné par le président. Et ensuite, tout s'enclencherait directement jusqu'aux sous-marins, jusqu'aux avions, etc.
Petite question en passant. Est-ce que vous avez le droit, vous, en tant que chef d'état-major particulier du président, de refuser de valider cet ordre ?
Le droit, non, certainement pas. Mais le devoir de vérifier qu'effectivement, c'est bien le président qui a donné l'ordre et qu'il ne s'agit pas d'une erreur, ça oui, bien sûr.
Alors mon général, c'est en 93 que vous entrez à l'Élysée comme adjoint du chef d'état-major particulier du président François Mitterrand à l'époque. Vous en parlez d'ailleurs avec une certaine fascination de ce président-là dans votre livre. Quand vous décrivez la cour, notamment qui l'entoure, quand il descend, dites-vous, la sonnerie retentit, le président arrive et tout change. On se croirait, écrivez-vous, dans un film de Tex Avery, on retient son souffle pour lui dire bonjour.
Oui, si vous voulez, il y avait autour de François Mitterrand un phénomène de cour qui était très fort, beaucoup plus fort que du temps du général de Gaulle, par exemple. Je crois que le pouvoir suprême crée toujours ce phénomène de cour. Oui. Mais il est plus ou moins important. Il était beaucoup plus important avec François Mitterrand qu'avec Jacques Chirac.
Qui vous avez d'ailleurs préféré servir, François Mitterrand ou Jacques Chirac ?
Objectivement, Jacques Chirac.
Mais, pourquoi ? Mais,
d'abord parce que j'étais, pour le coup, son conseiller direct, tandis qu'avec François Mitterrand, j'avais un décalage. Et puis, pour une autre raison, c'est que, et ça me facilitait la vie, je dois reconnaître, c'est que Chirac comprenait instinctivement ce qu'on appelle, ce que Clausewitz appelait la grammaire de la guerre.
Oui.
Il sentait la chose militaire.
C'était un chef de guerre, Jacques Chirac. D'abord, il avait combattu et servi notamment avec les armées en Algérie pendant 2 ans. Dans ses mémoires, il dit même, Jacques Chirac, qu'il a hésité à devenir militaire et à en faire carrière. C'est avec Jacques Chirac qu'est lancée d'ailleurs l'offensive en Afghanistan au lendemain du 11 septembre 2001. Il vous avait, j'imagine, à cette époque, demandé votre avis.
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous lui aviez dit ?
Je lui avais dit, je l'avais accompagné, si vous voulez, aussitôt après les attentats du 11 septembre, je l'avais accompagné à Washington.
Oui.
Et j'avais participé à ses entretiens avec le président Bush. Donc, je veux dire, je me sentais, pour le coup, extrêmement concerné, comme lui, par cette nécessité de solidarité avec les États-Unis, qui avaient quand même été très, très gravement touchés par le terrorisme. Maintenant, moi, je partageais, parce que l'Afghanistan, c'était quand même...
Mais vous étiez favorable à cette intervention, vous ?
J'étais favorable à cette intervention comme Chirac l'a conçue, objectivement. C'est-à-dire le minimum d'engagement français pour être solidaire avec les Américains, mais pas au-delà, parce que ce n'était pas du tout la zone d'intérêt de la France.
Quelle tension ça devait être à l'époque, une telle décision ?
Oui, c'était des décisions qui étaient difficiles. D'autant plus difficiles qu'au début de l'Afghanistan, on était en période de cohabitation politique.
Oui.
Et qu'il y avait des différences avec le gouvernement de Lionel Jospin. Lionel Jospin était plus réticent que ne l'était Jacques Chirac.
C'est une décision que vous n'avez jamais regrettée, ni vous ni le président Chirac d'ailleurs, quand on sait que cet engagement a tout de même coûté la vie à 100 de nos soldats.
Je crois que si vous voulez, nous chefs militaires, si nous commençons à raisonner en fonction des pertes que nous subissons, et Dieu sait à quel point j'ai été touché personnellement par chacun des morts, chacun des blessés qui, dans la période où j'ai été responsable, je veux dire, on ne fait plus rien.
Oui,
nous ne pouvons pas raisonner comme ça. Et aussi douloureux que ce soit, je veux dire, nous sommes avant tout conduits par la mission. Et la chose, qui est toujours restée essentielle vis-à-vis du président Chirac, c'était de lui dire, c'est possible, ou au contraire, on va à la catastrophe. Voilà. À partir de là, et la catastrophe, je disais, c'était d'ailleurs, par exemple, la possibilité de pertes importantes.
Oui, oui.
Mais de pertes importantes pour, en plus, un bénéfice pour la sécurité des Français, pour la France, très limité.
Alors, mon général, dans votre ouvrage, ces mémoires, vous revenez aussi sur des anecdotes assez croustillantes, mais révélatrices quand même de l'état d'esprit des présidents. Jacques Chirac, par exemple, qui ne transigeait pas avec l'art de vivre à la française. Quand il a appris que le chef d'État iranien ne voulait pas de vin lors du dîner d'État, il a fait carrément annuler la visite en disant ceci, on ne dicte pas à la France la manière dont elle reçoit ses hôtes.
Oui, c'était...
C'était ça Chirac aussi.
Ah oui, c'était ça aussi, bien sûr. Je pense que François Mitterrand aurait également refusé.
Ouais.
Parce qu'il était, il aimait bien vivre aussi.
J'ai une question d'actualité, il nous reste peu de temps malheureusement mon général, à vous poser sur l'engagement français au Sahel. C'est l'opération Barkhane évidemment qui a déjà coûté la vie à 57 de nos soldats. Est-ce que la France doit maintenir sa présence au Mali selon vous ?
Écoutez, pour l'instant en tout cas elle ne peut pas la retirer. Parce que je veux dire, pour le coup ce serait incompréhensible au regard des sacrifices déjà consentis et au regard des progrès réalisés. Maintenant qu'on se pose la question de savoir... si on doit continuer comme on fait aujourd'hui ou si on doit modifier de manière plus ou moins large nos stratégies, ça c'est légitime.
Oui.
Et c'est une question, je ne vous le cache pas, dont je sais qu'elle se pose actuellement pour le président Macron, pour Florence Parly, la ministre des Armées.
Trouver le bon équilibre.
Et pour Lecointre, oui. Trouver le bon équilibre et la meilleure méthode. Parce qu'on ne peut pas continuer indéfiniment avec une attrition en perdant 5 soldats par mois, c'est évidemment pas possible.
C'est un discours de sagesse que vous nous délivrez ce soir, vous n'avez pas d'ambition présidentielle, vous, mon général ?
Non pas pour le moment, je vous rassure.
Parce qu'il y a un nouveau successeur dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le général Pierre de Villiers, qui, dit-on, a des ambitions présidentielles. Quel regard vous portez sur cet ancien chef d'état-major des armées ?
Alors, très franchement, d'abord, je connais bien Pierre de Villiers, je veux dire, je ne pense pas qu'il ait réellement d'intention présidentielle, mais ce que je crois, par contre, c'est quand je sens, j'entends l'écho que ça a dans la société française, c'est que la France est encore à la recherche d'un homme providentiel,
oui,
comme Napoléon, comme De Gaulle.
Un grand chef.
Voilà, un grand chef, parce qu'on trouve que l'État n'a pas suffisamment d'autorité, parce que... Voilà. Et donc, il y a cette espèce... Mais je ne crois pas que ce soit forcément une bonne chose pour la démocratie.
En quelques mots, mon général, ce sera ma dernière question. Quel meilleur souvenir, si vous ne deviez en garder qu'un, de ces 7 années passées à l'Élysée?
Ben, je veux dire, peut-être mon départ, finalement. Vous savez, parce que j'ai été extrêmement touché par la manière dont Chirac m'a dit au revoir. Et je ne m'y attendais pas, parce que ça avait, nos relations n'avaient pas toujours été si faciles que ça, hein, au début en tout cas.
Et de quelle manière?
Quand il m'a dit,
raconter, oui.
Ouais, quand il m'a dit, mon général, j'ai de la peine à vous voir partir, j'étais extrêmement touché. Voilà.
Ouais.
Donc finalement, d'une certaine manière, c'était une conclusion qui allait bien.
Merci infiniment, mon général, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous et partagé ces souvenirs avec les auditeurs et les auditrices d'Europe 1. Je rappelle votre livre, hein, fascinant, Les Heures de la République, souvenirs de 7 ans à l'Élysée. C'est absolument passionnant, c'est aux éditions Perrin. Merci à vous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bucher.
18h30, passé de 1 minute, le rappel des titres avec vous, Isabelle Millet.
Et à nouveau l'heure des décisions difficiles pour le gouvernement. Un conseil de défense sanitaire s'est réuni ce matin à l'Élysée. Jean Castex fera des annonces demain à 18h. L'idée d'un couvre-feu à 18h, justement, généralisé ou étendu à d'autres départements que les 25 actuels est l'une des hypothèses étudiées. La crise sanitaire qui atteint des sommets aux États-Unis, près de 4500 morts en 24 heures, nouveau record. La ville de New York craint de manquer de vaccins d'ici la fin de la semaine prochaine. L'ancienne garde des Sceaux, Elisabeth Guigou, renonce à présider la commission indépendante sur l'inceste après avoir été citée parmi les proches d'Olivier Duhamel, accusé de viol incestueux par sa belle-fille Camille Kouchner. Le climat actuel, dit-elle, ne me permet pas de conduire cette mission avec la sérénité nécessaire. Carrefour étudie un rapprochement avec un géant de la grande distribution du Canada, le groupe Couche-Tard. Et puis l'Olympique de Marseille retrouve le PSG ce soir. C'est le trophée des champions, match qui se joue à Lens à partir de 21h.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure pour le grand journal de 19h. Un petit coup d'œil au temps avant les grandes voies avec la pluie qui est de retour. En plus de la neige d'ailleurs, Anissa.
Oui, c'est une nouvelle perturbation qui arrive par le nord-ouest demain et qui va toucher toutes les régions sans exception. Seul le pourtour méditerranéen restera sous le soleil demain. Mais surtout, cette pluie va se transformer en neige sur le nord-est avec un épisode neigeux remarquable à partir de ce soir et jusqu'à demain soir. 9 départements en vigilance orange, les Ardennes, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges et le territoire de Belfort en plus de la Haute-Savoie. Il faut savoir que par exemple dans les Vosges on attend 30 cm de neige demain. Et puis cette info qu'on vient de recevoir, dans la Meuse les bus scolaires ne circuleront pas demain toute la journée. Donc c'est vraiment un épisode neigeux très remarquable, oui, qui va se produire demain et jusqu'à la fin de la semaine. Donc soyez très prudents,
voilà,
dans le
nord-est. Soyez prudents. Message important ce soir. Merci Anissa. On vous retrouve à 19h pour un nouveau point, un nouvel update sur le temps.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bucher.
18h33, le débat des grandes voix du mercredi avec ce soir à mes côtés Catherine Ney. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Julien.
Guillaume Tabar, bonsoir Guillaume.
Bonsoir Julien.
Rédacteur en chef et éditorialiste au Figaro et David Revaud-Dallonne qui nous rejoint, rédacteur en chef politique au Journal du Dimanche. Alors on va d'abord ensemble évoquer évidemment ce nouveau conseil de défense qui s'est tenu ce matin à l'Élysée. Les annonces seront faites demain par le Premier ministre. On évoque de plus en plus l'idée de ce couvre-feu national abaissé à 18h, comme c'est déjà le cas dans 25 départements, avant peut-être un tournevis plus sérieux les semaines suivantes. C'est à peu près d'ailleurs ce que disait ce matin Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Écoutez-le.
Nous sommes extrêmement vigilants face aux conditions hivernales, face aux variants qui circulent partout dans le monde. Et évidemment, quand nous considérons qu'il faut prendre des mesures pour continuer à freiner le virus, continuer à protéger les Français, nous les prenons.
Voilà, c'est acté ou pas ce couvre-feu, ou ça peut encore évoluer, Guillaume Tabar ?
Ça peut encore évoluer. Bon, là, on sent bien qu'on y avance. Et ce que je trouve intéressant en termes d'expression et de communication gouvernementale, c'est qu'on attend les annonces et en même temps, ça fait quand même 2 jours que toutes les hypothèses sont mises sur la table. Ce qui est une manière à la fois de préparer l'opinion, de l'alerter, de la mettre en condition.
Mais c'est un peu le cas à chaque fois.
C'est un peu le cas à chaque fois, mais surtout dans un sens de durcissement. C'est pour éviter, je pense, l'effet choc de mesure. Si d'aventure... le confinement, enfin le couvre-feu à 18h ne concernait pas la totalité du territoire, mais quelques départements en plus, bah, tout le monde dirait « Ah bah ouf, ça n'est pas, pas tout le monde ». Vous voyez, c'est pour gérer ça. Bon, après, sur l'impact lui-même des mesures, moi je ne sais pas trop quoi en penser. Est-ce qu'il faut quand même tenir jusqu'au bout aussi la double obsession, bien sûr, d'éviter une circulation trop forte du virus, mais quand même de faire en sorte que le pays puisse tourner sur le plan économique. On voit bien comment... Déjà, Bruno Le Maire prévient que ce sera difficile d'obtenir le sursaut espéré, oui, de la croissance en 2021. Donc, si en plus, on,
Et en même temps, Guillaume Tabar, ça peut très vite tourner à une situation chaotique. Hein. Vous voyez ce qui se passe en Angleterre, vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Les chiffres de contamination sont très hauts. Moi, je suis surpris que le Premier ministre semble dire qu'il n'y a pas eu ou très peu d'impact des fêtes de fin d'année. Quand on voit les contaminations jour, on est à 19 000 cas quotidiens de contamination. C'est le chiffre qui est tombé hier, Catherine Ney.
Ben oui, c'est beaucoup, mais tous les médecins qui viennent s'exprimer sur les télés disent à la fois c'est beaucoup, mais que c'est à peu près étal comme occupation des lits et les morts aussi, leur nombre n'est pas en augmentation. Donc on ne sait plus quoi penser des choses. Oui. Alors, apparemment, on attend de voir si Noël n'a pas impacté, n'a pas renforcé la pandémie. On ne sait pas encore les résultats des premiers de l'an. Enfin, on devrait savoir assez vite, mais il semble que non. Alors, est-ce qu'il y a plus de cas positifs? Parce que c'est vrai qu'on se teste plus.
Oui.
Mais autour de soi...
Il y a le variant quand même. Oui, il y a le variant anglais, et puis le variant sud-africain qui est encore plus terrible, qui inquiète énormément. Olivier Véran disait hier au Sénat que parmi tous les tests positifs, il y a 1% de tests positifs qui sont des variants anglais. Ça, c'est inquiétant. Et c'est vrai, David Revaud-Allonne, qu'on observe une poussée de la part des scientifiques et des médecins qui demandent au gouvernement d'agir. Hein.
C'est vrai que sur les chiffres, en réalité, ils sont plutôt à l'étal. Vous citiez le chiffre de 19 000, c'est beaucoup, mais on a eu des chiffres dans cette...
Enfin, à l'étal, mais ça progresse quand même un peu. Hein.
Vous aviez déjà, avant les vacances de Noël, pendant les vacances, certaines
poussées. On était plutôt à 15 000 jours.
Certes. Je crois que d'après ce qui commence à filtrer, les chiffres de contamination consécutives à la fête de Noël et au 31, effectivement, comme le disait Catherine, sont plutôt faibles. Il y a un petit rebond sur le 31, mais ce n'est pas apocalyptique. Mmh. Donc, grosso modo, si on regarde la situation sur le papier, on est plutôt pas mal par rapport à nos voisins. Et vous avez raison, Julien. La vraie question, c'est ce game changer, ce véritable changeur de paramètres qu'est le variant. Mmh. Parce que 1% potentiellement détecté, comme l'a dit Olivier Véran, c'est énorme et ça modifie absolument toute la statistique.
Delfrécy, par exemple,
voilà,
le président du conseil scientifique dit « si on ne fait rien, on court à la catastrophe ».
Absolument.
Guillaume Tabar.
Oui, mais depuis le début, Delfrécy, c'est son rôle, de certaine manière, est du côté de l'alarme et donc des mesures de restriction. Il ne faut quand même pas oublier qu'au début de cette crise, il y a des mesures de restriction qui, par leur caractère brutal et sans discernement, ont provoqué quand même des dégâts psychologiques qui ne sont pas terminés. Oui. Et moi, je trouve qu'il y a eu quand même une infection plutôt heureuse de la part du gouvernement et notamment d'Olivier Véran, qui consiste à dire précisément... tant qu'on peut éviter de durcir, évitons-le. C'est-à-dire que si effectivement le 31, c'est une bonne surprise, pourquoi à tout prix vouloir durcir radicalement si ce n'est pas obligatoire?
On sait bien qu'il y a un temps de latence de 15 jours entre le moment où on prend des mesures et le moment où elles ont un impact, et inversement. C'est-à-dire que si on voit le nombre de personnes en réa augmenter, ça sera compliqué d'inverser la tendance dans un laps de temps relativement court.
Certes, nous prenons effectivement tous les chiffres. C'est vrai que le nombre de cas recensés de Covid augmente sensiblement. Vous le disiez, on est passé plutôt de 15 000 à 19 000. Mais pour l'instant, le nombre de personnes en réanimation, il reste autour de 2 600. Alors, il a même baissé quelques jours. Là, il augmente de quelques unités, voire de quelques dizaines. Mais la courbe n'est pas la même. Et le chiffre qui est, à mon avis, important, c'est quand même les cas de réanimation. C'est l'engorgement des hôpitaux. Parce que le virus en tant que tel circule, je veux dire, tant que ça ne sont que des formes relativement bénigne, par l'isolement, etc.
Le vrai juge de paix, ça sera le niveau d'impact du variant dans les contaminations chez nous en France. 18h39, on se retrouve dans quelques instants. Je voudrais aussi qu'on parle avec vous de l'impact de ce couvre-feu abaissé à 18h sur les commerces. Parce que ça n'est pas anodin, hein, tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h40, la suite du débat des grandes voix du mercredi avec toujours Catherine Ney, Guillaume Tabar du Figaro et David Revaud-Allonne du Journal du Dimanche. On continue à parler de ce conseil de défense qui s'est tenu aujourd'hui à l'Élysée avec ses annonces attendues demain à 18h par le chef du gouvernement, Jean Castex, qui a d'ailleurs été interpellé aujourd'hui au Sénat et qui s'est passablement énervé. Écoutez-le.
Cherchez pas à juger notre stratégie vaccinale qui va prendre plusieurs mois. Et vous le savez, mesdames et messieurs les sénateurs, vous le savez, on ne juge pas un match qui va durer 90 minutes à la deuxième seconde. Ça n'est pas possible.
Alors moi, il me fait un peu peur, parce que si on est à la deuxième seconde d'un match de 90 minutes, l'analogie avec l'année qui vient, on est mal emmanché.
Surtout que ça fait une semaine qu'il déroule la même image du match. Alors, quand il avait commencé il y a une semaine, il disait on est à la quatrième seconde. Donc si une semaine après, on n'est plus qu'à la deuxième seconde, c'est effectivement...
Et il disait aussi qu'il y aurait 1 million de vaccinés à la fin du mois de janvier.
Oui,
et on en est loin. Hein,
mais on y sera sans doute. On y sera sans doute, nous dit le gouvernement.
Il faudrait, pour y arriver, il faudrait que l'augmentation exponentielle continue fortement. Parce que
on est à 150 000 aujourd'hui. Vous avez vu le gap qu'on a établi en quelques jours.
Même si, effectivement, par rapport au premier jour calamiteux, c'est une forte progression, on est encore très, très loin de la capacité d'arriver à 1 million d'ici à la fin du mois.
Alors, je voulais qu'on évoque quand même ce couvre-feu généralisé, si c'est confirmé pour l'ensemble de la France à 18 heures. Parce que, évidemment, ça ne va pas faire les affaires des commerçants. On n'y pense pas forcément, mais la grande distribution, l'habillement, les petits commerces, ça va être un choc pour eux. Parce que le créneau de 17h30 à 20h, ça représente un tiers des achats alimentaires. Ça change complètement la donne, ça aussi, dans l'organisation de nos vies, Catherine.
Mais ça, tout le monde le sait. Autour de la table, vous savez très bien qu'en sortant du travail, on va acheter le pain, on va dans tous les commerces de bouche, et même on peut acheter... C'est à ce moment-là qu'on voyait les gens dans les magasins.
Oui.
Donc, c'est vrai qu'on n'imagine pas, moi, je n'imagine pas à Paris, tout soit fermé à 18h.
Oui.
Écoutez, là, aujourd'hui, les gens sont assez déprimé. Il fait mauvais, il fait froid, il y a de la pluie, le ciel est encore noir.
Les perspectives sont mauvaises.
Alors là, si en plus on généralise, moi je pense qu'il peut y avoir d'autres départements, c'est très dur aussi, mais je crois que dans la capitale et dans les grandes villes, c'est particulièrement difficile à faire observer ce couvre-feu à 18h. Alors moi, je veux dire que cet après-midi, ou ce matin plutôt, le président qui recevait les boulangers pour la galette des rois, a dit que les restaurants rouvriront dès que possible. Donc, vous voyez...
Voilà, ça, c'est un sacré engagement du président.
Voilà, donc ça ouvrira, ça réouvrira.
Évidemment, Paris est une ville, je dirais pas une ville de cadres, parce qu'on trouve de tout à Paris, mais il y a beaucoup de cadres, des gens qui ne quittent pas le travail à 16h ou 17h. Donc, effectivement, problème aussi, au-delà de la question des commerces et des approvisionnements, problème de transport. Vous imaginez un peu l'engorgement automobile dans les transports en commun, etc.
Non, mais il n'y a pas Paris. Hein. Le lycée, par exemple, partout en France, il y a des cours jusqu'à 18h au lycée.
Toutes les grandes villes, en réalité.
Ça demande une organisation qu'on ne mesure pas. Hein, c'est-à-dire changer les horaires des étudiants, changer les horaires des lycéens, changer les horaires de travail aussi. Ça veut dire qu'il va falloir laisser les gens sortir plus tôt. Et puis les courses, effectivement. Oui, je ne sais pas quand vont se reporter les gens pour faire leurs courses.
Oui, puis accessoirement, n'oublions pas que chaque commerçant est lui-même un client puissance d'autres commerces. Donc si lorsqu'un commerçant termine sa journée, il ne peut plus lui-même faire ses courses, y compris d'alimentation, c'est gênant. Puis moi, il y a une question toute bête que je me pose, mais c'est sans doute parce que je ne connais pas assez le sujet. Je n'arrive pas à comprendre comment mettre un même nombre de personnes dans une heure de magasin est moins dangereux que d'étaler ce même nombre de personnes sur 3 heures d'ouverture.
Vous savez, il y a l'idée aussi que les grandes surfaces pourraient avoir une ouverture pérenne le dimanche, par exemple, pour les achats se reportent sur le week-end.
Il y a un certain nombre d'achats qui sont quotidiens. Ensuite, le dimanche, déjà, la règle du repos dominical a été sérieusement quand même entamée au fil de différentes lois. Si maintenant, on banalise totalement le dimanche, je pense que ce sera un autre recul de civilisation qui ne sera pas un progrès. Et dans cette crise, on a plutôt besoin de préserver un certain art de vivre plutôt que de basculer dans une
uniformisation. Est-ce que vous pensez, les uns et les autres, qu'on pourra éviter un reconfinement ? David Revol.
Je vais vous faire une réponse, un petit peu de normand, mais je pense que oui, sauf si, bien sûr, les chiffres démontrent que. D'ailleurs, vous avez remarqué que le gouvernement tient le même discours. Ils disent « nous ferons tout pour éviter ce reconfinement ». C'est d'ailleurs ce qui s'était passé, souvenez-vous, pendant tout l'été et toute la rentrée de septembre. Le gouvernement, tous les ministres nous assuraient qu'il n'y aurait pas de reconfinement. Et patatras, ils ont été obligés de le remettre en place. Pourquoi ? Parce que la situation, vous le disiez tout à l'heure, Julien, à l'instant T, je pense que les chiffres que nous avons, c'est 19 000 chiffres, les chiffres des hospitalisations, de la réanimation, des morts, ne justifient pas au jour d'aujourd'hui un reconfinement total.
Parce que c'est
rien ne dit que dans 15 jours, ce sera le
On
le
est
même.
Un peu une anomalie aujourd'hui en Europe. Hein. Quand on regarde ce qui se passe autour de nous, d'ailleurs, c'est peut-être à mettre au crédit du gouvernement. On gère mieux la crise, là, pour le coup, que les autres. Parce qu'on a beaucoup critiqué la gestion de crise du gouvernement. Pour le coup, ça va plutôt bien.
Juste un petit mot là-dessus. Vous avez absolument raison. Quand le gouvernement ne gère pas bien cette crise, il faut le dire. C'est le cas, vous l'avez dit tout à l'heure, sur l'accélération du rythme des vaccins. Je trouve que les mesures qui ont été mises en place au mois de novembre et décembre, c'est-à-dire confinement et couvre-feu, c'est ça qui nous a permis d'éviter
un rebond épidémique pendant les fêtes de Noël, ce qui n'a pas été le cas, par exemple, en Angleterre, bien sûr, en intégrant cette nouvelle dimension du variant britannique.
Il y aura un effet de sens intéressant à observer. Si demain, à 18h, le Premier ministre annonce un couvre-feu à 18h, il va falloir aussi qu'il avance sa conférence de presse pour les prochaines semaines. 18h46,
oui, ça sera un signe, on le saura demain matin.
Il faudra avancer en soir.
On se retrouve, oui, sans doute. On se retrouve dans un instant. On parlera de l'opération Barkhane. Les Français n'y croient plus. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h50, on poursuit le débat des grandes voix du mercredi avec toujours Catherine Ney, Guillaume Tabar du Figaro et David Revaud-Dallone du journal du dimanche. On va maintenant évoquer le bilan de l'opération Barkhane au Sahel. Pourquoi ? Eh bien car les Français sont de plus en plus sceptiques sur la suite des opérations. C'est ce qu'on apprend dans le dernier baromètre IFOP pour le point. 51% des Français désapprouvent l'opération au Mali qui a déjà coûté la vie à 57 de nos soldats. Écoutez ce que disait à propos de cet engagement au Sahel Emmanuel Macron au sommet de Pau. C'était en janvier 2020.
On a besoin de plus de Barkhane, pas de moins de Barkhane. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait plus de présence sur le terrain pour éviter ces massacres. À chaque fois qu'un État demandera à l'armée française de ne plus être là, nous le quitterons. Notre seul intérêt, c'est la lutte contre le terrorisme et la stabilité et la souveraineté des États où nous sommes présents.
Alors évidemment, depuis l'évolution de la situation est plutôt défavorable à la France. Les terroristes reprennent du terrain sur place. Est-il temps de se retirer du Mali, comme beaucoup le réclament, Guillaume Tabar?
Écoutez, je pense que c'est tôt. Il faut un petit peu relativiser le décrochage de l'opinion. Oui, c'est vrai, maintenant, il y a une légère majorité de gens qui sont pour un retrait. Ça fait quand même 8 ans que la France est engagée au Mali, que mois après mois, on apprend les chiffres des morts. Donc 57, vous disiez, sur plus de 5000 soldats.
Et puis 5 en quelques jours, c'était...
Oui, bien sûr. Donc, c'est oui. Important. Bon. Oui. Mais si on compare, par exemple, à ce qui s'était passé pour l'engagement conjoint de la France en Afghanistan, on n'était pas leader, mais on était quand même présent en Afghanistan, au bout de la même période, il y avait 3/4 des Français qui disaient non, maintenant il faut qu'on arrête, il faut qu'on se retire.
Il y avait eu 100 morts, côté
français.
100 morts.
Donc, quelque part, l'opinion, elle reste partagée, elle n'a pas totalement décroché. Ensuite, il faut quand même rappeler que l'opération Barkhane est, quoi qu'on en dise, un succès sur le plan militaire. Il y a eu des cibles qui ont été atteintes, il y a eu des leaders d'Al-Qaïda au Maghreb qui ont été
La situation est quand même chaotique
aujourd'hui
au Mali.
Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que théoriquement, Barkhane devait permettre la mise en place de véritables autorités maliennes solides qui puissent prendre le relais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces autorités maliennes, elles ne sont pas en place, que le pouvoir politique qui est là n'arrive pas à prendre en main la situation. Donc, je veux dire, le volet militaire marche, mais...
Mais on ne peut pas, David Revaud-Dallone, rester indéfiniment quand même au Mali et au Sahel. On a quand même plus de 5000 hommes qui sont là-bas. Hein.
Je me souviens que quelques jours après le déclenchement de l'opération Serval, il y a exactement 8 ans, presque jour pour jour aujourd'hui, un officier m'avait dit « Nous sommes là pour 20 ans. La logique militaire et politique de la zone... »
Vous voulez dire qu'on est encore pour 18 ans, 12 ans sur place?
En tout cas, ce qui est certain, c'est que le Mali est un État failli. Ça vient d'être expliqué par Guillaume Tabar. On expliquait que c'était la plus belle démocratie en Afrique. On s'est aperçu en 2013 que l'État ne tenait pas, que l'armée n'existait pas. 8 ans plus tard, on en est toujours au même point sur le plan politique. Le président Macron, dans la phrase que vous avez laissé écouter tout à l'heure, expliquait lutte contre le terrorisme, objectif 1. Pour le coup, je pense que c'est pas mal réussi, c'est-à-dire qu'il y a des résultats, il y a des morts, certes, 57 morts, c'est beaucoup, c'est tragique, mais il y a des résultats, il y a des cibles, il y a des groupes djihadistes qui sont éliminés parfois en grand nombre. Et puis, de l'autre côté, il y a la stabilité politique, et ça ne marche pas, parce qu'on se retrouve dans la même situation qu'il y a 8 ans, avec un coup d'État qui a eu lieu cet été, et c'était la même chose qui avait déclenché d'ailleurs l'origine de l'opération Serval.
Oui, ce qui est difficile à comprendre, d'abord, je crois que les Français, maintenant, ne comprennent pas le sens de cette opération, parce qu'ils voient bien qu'il y a des succès tactiques, c'est-à-dire que des djihadistes sont tués, dont certains chefs, mais on n'en connaît pas le nombre. On connaît le nombre des militaires tués, il y en a 51, c'est évidemment trop pour les familles, mais quand on fait la guerre, il y a des morts, il faut s'y préparer, surtout quand on saute sur des bombes, mais ça ne sera pas Dien Bien Phu, comme disait un général. Donc il y a des morts. On ne sait pas combien il y a de morts côté djihadistes.
La défense communique parfois.
Oui, pas beaucoup. Pas beaucoup. Et donc, les Français disent pourquoi est-ce qu'une opération qui coûte entre 650 millions et plus d'un milliard d'euros. Alors, c'est vrai que quoi qu'il en coûte aujourd'hui...
On ne dit pas souvent, mais ça coûte cher en plus.
Ça coûte cher. Mais ça sert à quoi? Surtout que tout ce qui était prévu, c'était quand même que les 5 pays qui sont concernés par ces avances djihadistes arrivent à former leurs armées, à s'entendre politiquement, enfin, à faire quelque chose. Or, là, ce côté politique... n'apparaît pas. Et surtout, pour les militaires français, ce qui est très désagréable, c'est de voir que le putsch militaire qui a eu lieu il y a quelques mois, maintenant, les militaires, ils veulent, les Maliens, ils veulent négocier avec les djihadistes. Oui. Alors, c'est ça qui,
ce qui est contraire à la doctrine française.
Et
David,
puis, c'est vrai, c'est tout à fait juste. Les armées africaines, le fameux G5 Sahel était censé prendre la relève des Français. Ça n'a pas marché. Certaines armées sont un petit peu au niveau, comme celle du Niger, celle du Mali, pas du tout. Et puis nos amis européens, effectivement, sont quand même très en dessous de la main. Et puis un dernier point, c'est que on parle de l'opinion française ici, hein, de son souhait de voir les militaires quitter le Mali, enfin la zone. L'opinion sur place commence à devenir de plus en plus hostile à la présence française.
Oui, c'est vrai.
Manipulée par certains courants, et notamment, évidemment,
les
courants
islamistes. Mais surtout dans les villes. Parce que du côté de Gao et la campagne, ils sont bien contents parce que les militaires français
protègent,
apportent aussi de la logistique, les aides
mais
de la nourriture.
Mais il y a une opinion manipulée sur le
terrain. Revenir sur ma question de départ, et ce sera le mot de la fin, Guillaume Tabar, est-ce qu'on peut mener une guerre comme celle-ci dans la durée contre son opinion française, si demain l'opinion française se retourne considérablement?
Non, tout à fait. Et c'est bien pour ça que l'opinion est une arme et que les djihadistes jouent là-dessus. Parce qu'une chose est d'avoir des soldats, d'en tuer, etc. C'est la guerre. Très bien. Mais leur objectif, c'est de faire en sorte que les opinions des démocraties, parce que l'opinion chez eux, elle ne compte pas, l'opinion des démocraties décroche pour que les gouvernements disent « Ah ben non, l'opinion ne nous soutient plus, on se retire ». Le succès là où les djihadistes seraient gagnants, c'est si le gouvernement se retirait, non pas parce que soit objectif atteint, soit parce qu'il y a bien un moment, il faut quand même négocier. Mais si on se retirait par crainte de l'opinion. Après, on sent bien qu'on va quand même arriver vers, non pas un départ brutal, mais
un mot, Catherine.
Réduire la valeur progressivement.
Mais tuer 5 militaires par des bombes, c'est une guerre psychologique, parce qu'ils savent qu'ils jouent sur l'opinion publique. D'ailleurs, le général Lecointre, qui est le chef d'état-major des armées, disait aussi parler de l'impérium de l'opinion publique. C'est-à-dire que dès que l'opinion publique lâche et qu'on arrive dans une période présidentielle, vous voyez, c'est...
Merci Catherine, merci à tous les trois. On aura évidemment l'occasion d'y revenir. Ça n'est pas fini comme débat, l'engagement français au Mali et au Sahel. 18h56, on se retrouve avec le journal dans quelques secondes et puis le débat du Club des Idées. À tout de suite.
Europe 1, écoutez le monde changer.